Cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre émission 100% locale, Cultivons notre jardin. Cette émission, donc, composée par Nat et Jackie, Nat moi-même et Jackie, salut Jackie, comment tu vas ?
Il est là ! Et ça va très bien ?
Bien ! Qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment, Jackie ?
Eh bien, en ce moment, je ne fais pas grand-chose au jardin. Je continue bien mes tas de compost parce qu'en fait, je récolte beaucoup donc les carottes, les betteraves, etc. Et ça me fait beaucoup de végétaux, beaucoup de feuilles à mettre au compost. Et voilà, c'est pour l'instant l'essentiel de l'activité. Alors, les carottes et les betteraves, eh bien, je mets ça dans du sable. À la cave.
Pour les conserver. Donc, tu fais des tas en ce moment.
Voilà, je fais ça.
C'est pas mal.
Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais...
Il y a un insecte qui fait ça, hein, mais... Jackie. Il y en a déjà un qui fait ça, d'insectes.
Oui, il y en a beaucoup.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous raconter ? Bienvenue, donc, c'est ce qu'on vous disait dans Cultivons notre jardin. Donc, on va à nouveau vous parler aujourd'hui de jardinage au naturel, d'un petit peu tout ce qui se passe autour de chez nous et qui concerne le jardinage, les fruitiers, tout ça. Voilà. Sachez que nous sommes toujours donc, sur les nouveaux horaires de diffusion, le jeudi 12h30 et le dimanche matin à partir de 9h. Vous pouvez nous retrouver 9h10, comme dit Jackie. Exactement, attention. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? On aura une question d'auditeur aujourd'hui à nouveau. C'est bien parce que les gens commencent un petit peu à interagir avec notre émission et ça, c'est chouette parce que c'est un petit peu l'objectif. Donc, on garde ça pour la toute fin d'émission.
Oui, on peut dire quand même que ça va être sur le bouturage des camélias.
Oh, t'as vendu la mèche, Jackie.
Eh bien, c'est pour que les gens écoutent jusqu'au bout.
Ah, t'as raison, ouais. Moi, je voulais que ce soit une surprise. Mais c'est... oui, tu es stratégique, bravo. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, jardinage, bouturage, plantes, etc., à nous poser, et vous pouvez nous laisser un petit message soit sur la page Facebook de la radio, soit nous envoyer un mail à redac@48fm.org. Et pour écouter nos émissions, comment ils font les gens, Jackie ?
Eh bien, ils peuvent aller sur Internet, hein, ça se fait beaucoup maintenant, www.48fm.org.
N'est-ce pas, Jackie ?
Voilà, et donc là, ils trouveront toutes les émissions depuis le début, ça en fait 22 voilà. Maintenant.
22 dans la rubrique MAG, comme magazine de voilà, Cultivons notre jardin. Voilà, voilà. Bon, t'es allé te promener ces derniers temps, Jackie, il me semble.
Et oui, je suis allé me promener, bon, pas très loin, parce que je suis allé jusqu'à Chanac le week-end dernier.
Auprès de Mona.
Voilà, donc pour la fête de la noix. C'est une première du genre, là, les tours et détours du monde organiser cette fête de la noix. Il faut savoir que c'est pas pour rien, parce que Chanac était le pays de la noix, comme ça. Il se récoltait beaucoup de noix, et on faisait de l'huile de noix à Chanac.
Bien. Donc, mais c'est pas un peu toute la vallée du Lot, quand même, où il y avait des noix ?
Oui, mais alors plus précisément, autant Montrodat est connu pour le fait que ce soit des mangeurs de prunes à Montrodat, et ben c'était des mangeurs de noix et des producteurs d'huile de noix sur Chanac.
Mm-hmm.
Plus précisément. Voilà, donc là c'était une première, mais bon, il y a quand même une bonne fréquentation puisque c'est, me semble-t-il, autour d'une centaine de personnes qui ont fait le déplacement, qui sont venues voir. Il y avait une exposition avec tout autour de la noix, de l'huile de noix, beaucoup de produits. Il y avait aussi un troc-plante. Hein, donc ça commence à bien se développer dans notre secteur.
Oui.
Donc des gens qui amènent des plantes, qui viennent chercher. Comme toujours, beaucoup de gens qui ont oublié d'amener quelque chose, mais ça fait rien. Contre un sourire, ils pouvaient repartir avec des plantes ou des graines.
Et puis la fois suivante, ils amènent et c'est bien comme ça.
Voilà, c'est ça. Ça les motive pour ramener la fois d'après.
Ouais.
On avait aussi sur un stand la fabrication de jus de pomme. En fait, on a...
C'est la saison.
Voilà, on a broyé des pommes, on a mis les pommes au pressoir et beaucoup de gens sont repartis avec un litre de jus de pomme comme ça, tout nouvellement pressé. C'était très bon, très frais, très agréable. Et puis, c'est toujours une activité qui rassemble les personnes parce que autant certains pour la technique, comment ça se passe, la presse, etc., que les gourmands, tout simplement, qui ont envie de boire ce jus de pomme.
Oui, puis il y a beaucoup de gens qui ont un pommier dans leur jardin, en Lozère quand même, hein, tout simplement, même sans avoir un très grand jardin, et du coup, qui n'en font pas forcément quoi que ce soit. Donc, c'est une bonne idée, cette possibilité de... C'était ça, l'idée, hein, c'était que... Au départ, tu avais imaginé que les gens amènent leurs pommes.
Voilà, c'est ça. C'est de regarder autour de soi, parce que même pas seulement. Hein, en Lozère, on voit dans beaucoup d'endroits où il y a des pommiers comme ça, pommiers ou poiriers. Hein, d'ailleurs, ça marche aussi très bien avec la poire pour faire du jus. Et l'idée, c'était qu'ils ramènent, justement, et puis qu'ils repartent avec un litre de jus. Alors bon, c'était une première. Il faut que les gens soient bien au courant. Donc, là, ça ira encore mieux l'année prochaine.
À renouveler et à motiver. C'est vrai qu'une pomme, même si elle n'est pas très bonne à manger en termes de goût, parfois un peu acide, tout ça, elle peut être très bien dans un jus.
Oui, surtout en mélange.
Voilà.
Le meilleur jus de pomme, c'est quand on met plusieurs variétés. Et on se rend compte que même des variétés qui sont un petit peu doucereuses, comme ça, à manger au couteau, eh ben, peuvent être un petit peu plus acidulées. Ça donne un petit côté très sympa, le fait de le faire en jus.
Super.
Voilà, donc il y avait aussi de la vente de produits fermiers, il y avait aussi un repas d'organiser, hein, donc les gens pouvaient venir passer la journée, c'était bien sympathique. Voilà pour ce qui est de la fête de la noix à Chanac.
Ouais, c'est bien, j'étais un peu abandonnée quand même, je t'avais dit je viendrai à la fête de la noix et plouf.
Eh bien oui, voilà.
Toujours pas le don d'ubiquité, je n'y arrive pas, c'est insupportable.
Voilà, mais bon, il y en aura d'autres, je pense. Et puis, les organisateurs disaient bien qu'ils allaient débriefer pour pouvoir voir ce qui avait marché, ce qui peut être amélioré, etc. Donc ça s'est passé vraiment dans la bonne humeur. C'était très sympa.
Ben, c'est intéressant à relever, effectivement, parce que ce type d'initiative locale portée par les gens, ben, c'est super.
Voilà.
Voilà.
Donc, dans ce même genre. Dans ce même genre, il va y avoir, alors là, on s'y prend un petit peu à l'avance.
Mais ça, il faut que les gens puissent se préparer. C'est une bonne idée, Jacques.
Il va y avoir une autre fête, c'est la fête de l'arbre,
ouais,
qui se déroule tous les ans, depuis bien des années maintenant, à Saint-Jean-du-Gard.
Et c'est super, la fête de l'arbre.
Alors ça, c'est vraiment un endroit où on retrouve les jardiniers, les amoureux des arbres, des plantes, etc. Alors, il y a toujours un thème. Cette année, le thème principal, c'est la tomate. Donc là, voilà, ça c'est un thème qui va être beaucoup décliné, très important, très sympa pour les jardiniers, parce qu'on a vraiment besoin de redécouvrir des variétés plus ou moins anciennes, de pays différents. Beaucoup, par exemple, de tomates viennent de Russie, et pour la Lozère, c'est intéressant, parce que c'est des tomates qui ont résisté à certains froids.
Mais elles viennent vraiment de Russie, les tomates ?
Y en a... Alors, non, l'origine...
L'origine, c'est le Mexique.
Hein. C'est le Mexique, mais il s'avère qu'en Russie, il s'en est élevé beaucoup, beaucoup, et même en Sibérie, il y a des tomates qu'on a pu retrouver en Sibérie, et donc... Pour un climat un petit peu montagne comme ça, ça peut être très intéressant. Mmh. Alors le thème va être développé autour de formes différentes de tomates, de couleurs différentes, de goûts différents. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. En plus, la tomate, on peut facilement récolter ses graines. Donc ça, on en parlera dans une émission peut-être sur l'an prochain au moment où il faut le faire. On peut récolter les graines en ressemer comme ça. Il y en a les tomates cerises, par exemple, qui sont très intéressantes, non seulement en décoration, mais qu'on peut mettre facilement aussi en conserve. Hein. Moi, j'en fais beaucoup en conserve, comme ça, sans eau. Très intéressant pour manger des tomates l'hiver. On peut bien sûr faire des jus, des concentrés, etc. Voilà, ça c'est pour le thème de cette année.
Ben, j'ai une petite pensée pour René qui gentiment m'a amené une cagette de ses tomates ce matin, un peu des roses de Berne et des cœurs de bœuf. Que j'en remette à mon congélateur pour l'hiver. Il est gentil, René.
Mais oui, c'est sympa. Mais même ce que tu peux faire, c'est d'en prendre une, par exemple, de l'ouvrir en deux et même maintenant de récupérer les graines.
Les graines, oui. Pour, ouais, c'est la rose de Berne
pour l'année prochaine. Et bien, en plus, elle est très prolifique. Ce n'est pas des très grosses tomates, mais ça marche toujours très, très bien, la rose de Berne.
Je vais faire ça.
Voilà. Donc, et puis tu nous diras la prochaine fois comment tu as procédé, puis on en parlera justement.
D'accord. Hein.
Voilà. On va continuer sur la fête de l'arbre à Saint-Jean. C'est un rassemblement aussi de beaucoup de pépiniéristes. Là, donc, c'est très intéressant parce que ces pépiniéristes vont proposer beaucoup de choses. Il y a des plantes originales, hein, des plantes grasses, des cactées. On peut se faire une collection de cactées, d'ailleurs, pour vraiment pas cher, parce qu'ils vendent ça dans des tout petits pots, c'est assez sympa. Il y a des fleurs originales aussi, surtout dans les fleurs vivaces, comme ça. C'est vraiment un bon truc, oui.
Oui, je me disais que les pépiniéristes, ce qui est important, là, c'est que ce sont des pépiniéristes locaux, donc avec des variétés...
Voilà,
des
variétés adaptées. On va y revenir justement pour les arbres comme ça, surtout pour les arbres fruitiers.
Oui.
Alors, juste une petite parenthèse pour dire qu'il y a beaucoup aussi pour ceux qui aiment bien les citrus, hein, toute une gamme de citronniers avec des choses, enfin citronniers, orangés, etc.
Kumquat.
Kumquat, voilà, des mains de Bouddha là, qui sont des espèces de citrons. Oui. Enfin, il y a vraiment des choses très très sympas à voir. Il y a une super exposition de courges qui sont aussi à vendre. Hein, donc,
des expositions de courges, Jackie, moi je peux t'en trouver si tu veux, hein, c'est pas un problème.
Oui, mais là, celles-là, elles sont bonnes. voilà, donc il se vend aussi des arbustes, hein, et dans des arbustes originaux, alors plus ou moins adaptés à notre contrée. Hein. Attention aussi, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont un petit peu du sud, qui viennent.
Oui, quand même,
là-bas,
à Saint-Jean-du-Gard, c'est pas mandé.
Il y a de très beaux. Voilà, donc. Mais en même temps, c'est des bons conseillers. C'est des gens qui font leur boulot comme il faut. Hein. J'aime à dire ça. Donc, il y a aussi des arbres d'ornement, mais alors surtout, beaucoup, beaucoup d'arbres fruitiers. Des arbres fruitiers aussi bien en arbres développés qu'en sions. Et donc ça, ça peut être très, très intéressant. Selon vos sols, selon votre climat, eh ben, on va trouver des professionnels qui peuvent vraiment vous orienter sur des variétés, beaucoup de variétés locales. Alors il y a même des gens qui viennent de la Drôme, du Jura aussi, je crois, un peu des Alpes, donc qui vont se retrouver aussi avec des variétés qui peuvent aller chez nous, comme ça, de zones montagne. Et voilà, c'est quelque chose qui va être très, très intéressant.
Tu parles des Alpes. J'avais croisé une fois, il y a 3 ou 4 ans en arrière, à la fête de l'arbre à Saint-Jean-du-Gard, un type qui récupérait la sève des sapins pour en faire un encens naturel.
Bah oui, on peut faire beaucoup de choses avec ça, hein, même des liqueurs, etc.
Ça sent bon et ça assainit la pièce.
C'est très, très agréable.
Alors, c'est des choses qu'on a perdu l'habitude d'utiliser en fait et qui sont naturellement disponibles à 2 pas de chez nous et très facilement utilisables en fait. Hein, plutôt que d'aller acheter des bâtonnets d'encens qui puent et qui polluent. Ça, c'est bien. Hein.
Voilà. Donc, et puis, on est vraiment dans du produit naturel.
C'est ça.
Alors, sachez aussi qu'il y aura un stand où vous pourrez m'y retrouver parce qu'il y aura tous les ans, il y a un stand verger de Lozère.
Jackie, en chair et en os, à nouveau, mais c'est incroyable. Toi, le don d'ubiquité, tu l'as, par contre, je crois.
Voilà, c'est une question d'organisation, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et il y a toujours un stand qui est aux côtés du Centre national de pomologie d'Alès. Donc, ça fait un gros stand avec des conseillers, vraiment. Donc, j'invite les gens à y venir. On en parlera dans l'agenda, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que c'est toujours autour de la 5 Catherine, que ça se passe. Et donc, cette année, ça va être samedi 23 et dimanche 24 novembre. Mais on y reviendra.
Et c'est à la Sainte-Catherine, parce que c'est à la Sainte-Catherine qu'il faut planter les arbres, car à la Sainte-Catherine, tout prend racine.
Et voilà.
Et voilà.
Le dicton du jour.
C'est beau. Eh bien, voici l'heure venue de notre première petite pause musicale. Aujourd'hui, avec Jackie, on a choisi Brel, Jacques Brel, qu'on aime beaucoup. Et en premier, on va écouter ces gens-là, ceux-là même.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qu'aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer soupe froide. Et ça fait grand... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. On se dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, moi le bien longtemps, ou bien j'ai oublié. Ils sentaient pas bon, enfin ils veulent pas, enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On s'en va pas, monsieur. On s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
Et ben voilà, une chanson qui nous a fait bien plaisir. J'espère que ce plaisir sera partagé par un maximum d'auditeurs.
Ah, je l'aime, celle-là.
Voilà, c'était un bon moment, un peu plombant, ouais. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un bon moment. On va peut-être avoir un autre bon moment avec le thème que tu as choisi aujourd'hui.
C'est sûr, Jackie.
À midi, c'est quand même génial.
Bon appétit.
L'urine, sous forme d'engrais.
Oui, exactement.
Alors, on y va.
On y va. Oui, alors, ces derniers temps, j'entendais parler de temps en temps d'histoires d'urine, d'engrais, machin. Je dis, tiens, on va aller regarder d'un petit peu plus près qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est une info qui n'est pas spécialement récente, puisqu'elle a un an, en fait. Mais bon, le temps qu'elle arrive jusqu'à moi, au fin fond de la Lozère, il a fallu ça. En fait, il y a un type qui s'appelle Fabien Esculier, qui est chercheur à l'école... à quelle école ? À l'école des Ponts Paris Tech, qui a reçu l'an dernier la médaille d'argent de l'Académie d'agriculture de France pour ses recherches sur le recyclage des urines humaines en engrais. La classe, non ?
Ah, c'est pas mal.
C'est pas mal. Quand on parle de transition écologique, pardon, et bon, l'idée là, c'est de se dire que l'urine n'est pas un déchet, mais bien une ressource qui serait actuellement délaissée. Donc tu comprends, ça a titillé un petit peu voilà, mon intérêt, cette histoire. Moi qui aime bien essayer de réduire les déchets, tout ça, de trier, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que c'est une ressource plutôt insoupçonnée. Alors que l'agriculture aujourd'hui dépend d'engrais principalement, dont la production consomme des ressources non renouvelables, la collecte sélective des urines pourrait permettre de disposer d'une ressource salubre et renouvelable.
Et pourquoi pas ?
Mais oui, pourquoi pas ? On est bien d'accord. Mais pourquoi, déjà ? Avant de dire pourquoi pas, Jackie. Pourquoi ? Ben parce que l'urine est un engrais liquide à action rapide qui est très riche en azote, en fait. Elle contient aussi, mais en moindre quantité, du phosphore, du potassium, du soufre et surtout ben, tous nos oligo-éléments ben, qui partent avec, quoi. Donc, ces éléments sont pour la plupart sous une forme directement assimilable par les plantes, dis donc.
Ben voilà une bonne chose. Moi, je savais un peu, oui, que c'était un engrais qui donne en général les mêmes résultats que l'utilisation des engrais minéraux, hein, qui peut donc les remplacer à moindre coût. Il faut savoir qu'une personne produit environ 500 litres d'urine par an, ce qui peut fertiliser jusqu'à 400 mètres carrés de surface cultivable. C'est pas négligeable du tout.
C'est incroyable, hein ?
Eh oui.
Mais bon... Du coup, je suis allée regarder un petit peu du côté des expérimentations qui avaient été faites, parce que voilà, ça a bien démarré. On a des expérimentations sur l'urine en tant que fertilisant qui ont été faites un petit peu partout dans le monde. Au Burkina Faso, par exemple, ils ont travaillé sur les aubergines et sur les tomates. Et par exemple, le rendement sur les aubergines est multiplié par 6. Par rapport aux parcelles non fertilisées avec de l'urine. Pour les tomates, le rendement il va être multiplié par 2,5. Donc là, on est au Burkina Faso. On a testé aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, ils ont testé avec des tomates cultivées en pot. Et on a un rendement qui est 4 fois plus important que les sujets non fertilisés à l'urine. En France, on a testé sur des pommes de terre. J'aurais pas testé ces serments d'entrée de jeu, moi, étant donné que c'est quand même un légume qui pousse sous terre, mais bon, oui. Peu importe, laissons faire la science. et du coup, on a une récolte qui a doublé sur les pommes de terre en France. Voilà, au Mexique, on l'a testé sur des laitues sous serre, ça a très bien fonctionné également. Et en Éthiopie aussi, où on l'utilise sur les bêtes à carde, et on a des rendements qui sont multipliés par 4, quoi. Enfin, c'est énorme. Par contre, a priori, à forte dose, l'urine est toxique pour les vers de terre, nos amis les lombrics. Donc, il ne faudrait pas en abuser, a priori. Mais, visiblement, donc, ça a été testé un petit peu partout. Ça fonctionne.
Après, c'est une question de dosage. Hein. Il faut être précis sur les dosages. Tu peux nous en dire quelque chose ?
Oui. Alors, il faut faire attention, effectivement. L'urine, elle peut être utilisée diluée ou non, en arrosage au pied des plantes. Si vous la diluez dans de l'eau, vous évitez le surdosage et sa répartition au niveau du sol va être plus facile. Donc, en général, on va diluer 1 litre d'urine pour 10 litres d'eau. Voilà, donc à 10%. Et une fois diluée, cette préparation n'a plus vraiment d'odeur et elle n'embaumera pas votre potager, sauf si vous avez la main très lourde ou si vous avez mangé des asperges.
Mais ça sentira l'asperge, ça sentira pas l'urine.
C'est terrible, je souhaite encore bon appétit à nos amis auditeurs. Et comment la... Ben, par contre, il faut la stocker peut-être du coup.
Voilà.
Il se pose forcément la question du stockage de l'urine.
Mais d'autant plus que ça va l'améliorer de la stocker.
Ah bon ?
Eh oui. Donc pour assainir cette urine, ou pour l'utiliser plus tard, on peut la stocker. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, simplement dans des bidons. Hein. Le mieux, c'est quand même de bien fermer, effectivement, pour les odeurs. Et surtout, de les mettre ou dans des cubis qui soient non transparents, ou bien dans une cave ou un bâtiment que ça ne voit pas la lumière.
À la cave.
Voilà, et ça peut se conserver comme ça pendant 6 mois sans aucun problème.
Jusqu'à 6 mois. Et en fait, plus on va la conserver, l'urine, moins... en fait, les agents pathogènes, ils vont disparaître très, très rapidement. Il y a déjà, de toute façon, très peu d'agents pathogènes dans l'urine. Et effectivement, en la stockant, ils sont détruits, tout simplement. Après une semaine de stockage, les risques de transmission par agents pathogènes sont diminués par 1000. Et plus on la stocker longtemps, et plus ça va être efficace. Et effectivement, comme tu dis, Jackie, jusqu'à 6 mois, c'est bien.
Voilà, et puis bon, souvent on a quand même des urines saines, hein, partons aussi de ce principe-là.
Oui, 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 attention, si vous prenez beaucoup de médicaments, ne vous servez pas de votre urine pour fertiliser. Sinon, vous allez avoir des trucs bizarres autant.
Eh oui, peut-être.
Peut-être. Oh, ben, vous pouvez essayer finalement.
Bon, déjà, on sait que certains légumes sont exigeants en azote, hein, les légumes feuilles, a priori.
Oui.
Donc, ce sont ceux qui donneront les meilleurs résultats. Les épinards, par exemple, les choux, hein, que ce soit les choux paumés ou les choux fleurs, mm-hmm. les laitues, le maïs, les poireaux, les blettes. On peut aussi l'utiliser avec d'autres légumes gourmands. Alors donc, tu en parlais tout à l'heure, comme les courges, les tomates
oui.
ou les aubergines. Et les aubergines, c'est d'autant plus important que c'est une plante qui est certainement la plus exigeante au niveau du sol. Quand on dit exigeante au niveau du sol, ça veut dire qu'elle va rechercher des oligo-éléments, des amendements, etc. Là où on a fait pousser une aubergine, si on n'a pas... mis assez d'engrais comme ça, eh bien, ça va quasiment nous détruire le sol. On ne peut pas en mettre 2 années consécutives au même endroit.
D'engrais naturels, hein, toujours. Hein. Attention, voilà. Quand Jackie précise pas, ah moi, bah je oui. suis là, je fais la police du bio.
Voilà, après, une fertilisation liquide, c'est pas obligatoire. Surtout si vous avez déjà bien fertilisé votre potager avec du compost.
Oui.
Attention à l'excès d'azote qui peut également favoriser des maladies, voire attirer des ravageurs ou donner des fruits comme on peut en avoir dans le commerce qui sont trop gorgés d'eau. Et,
ils n'ont pas de goût.
Et ils n'ont pas de goût et puis ils se conservent mal.
Ouais, ça ne nous intéresse pas ça.
Voilà.
Et tu parles du compost justement d'après toi ? Qu'est-ce qu'on fait
Alors, bah, le tas de compost, on peut aussi apporter de l'urine directement. Alors bon, toujours hein, dilué, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Mais quand on dit, de temps en temps, il faut arroser le compost, et bah, pourquoi pas le faire avec de l'urine, qui va justement apporter azote et oligo-éléments. Ça aidera aussi à la décomposition des matières organiques. Et les éléments fertilisants et ben, seront ensuite répartis dans le potager. De cette manière, l'action elle est douce quand même, hein, et les éventuels agents pathogènes dont on discutait tout à l'heure, qui vont être détruits là, dans ce cas-là par l'air libre et les UV.
Oui.
Donc les risques de surdosage vont être amoindris, et le tas de compost est quand même plus facile à viser qu'un arrosoir, quand on veut faire directement...
L'objectif de Jackie étant d'uriner directement dans l'arrosoir.
Voilà. C'est quand même difficile dans ce cas-là de doser. Alors, c'est un peu au pifomètre du jardinier, si je peux dire.
Bon, si vous surprenez au printemps votre voisin jardinier en train d'uriner dans son arrosoir, ne vous inquiétez pas, il travaille au naturel, tout va bien.
Voilà.
Et par contre, moi je me disais pour les plantes en pot, parce que voilà, on imagine très bien que pour une plante, pour un potager, tout ça, on est en terre, donc ça se dilue, derrière il pleut, tout ça, tout va bien. Pour les plantes en pot, il faudra faire un petit peu attention, puisque bien sûr, tout va rester dans votre pot. Donc, il vous faut même faire très attention, en fait. Hein. Vous pouvez essayer d'utiliser l'urine en fertilisant, mais vous le diluez bien, surtout, et vous en mettez peu, vous y allez mollo, et vous voyez un petit peu comment ça réagit. Mais a priori, de toute façon, l'urine, en tant que fertilisant, on va l'utiliser surtout au début, au moment de la croissance de la plante, hein, Jackie ?
Bien sûr, puisque c'est l'apport d'azote hein, qu'on va rechercher. Et donc, comme toujours en jardin, faites des expériences, faites des...
Oui.
Vraiment, c'est...
Des tests, mais avec un sang.
Voilà, disons sur une plante en pot, donc dans un mélange à 10%, on va pouvoir arroser avec ça tous les 15 jours. Ça veut dire que si entre-temps votre plante a besoin d'eau, ben vous l'arroserez avec de l'eau pure. C'est
oui.
pas voilà, hein, comme on le fait avec un autre engrais. Donc faites ça tous les 15 jours, voire 3 semaines pour des plantes peu exigeantes. Et puis ce qui est bien, c'est que normalement c'est une assimilation assez rapide. Et dans la semaine qui suit, vous devez voir un effet. Si vous voyez des feuilles qui jaunissent ou qui se sèchent un peu, bah c'est qu'on a surdosé. Donc après, bah, pas hésiter à remettre de l'eau et à mettre moins souvent cette dilution d'urine.
Oui, bah, l'urine, c'est comme tout, hein, c'est à consommer avec modération, Jackie. Hein.
Voilà. Et pas obligatoirement au moment des repas.
Exactement. Est-ce que tu as peut-être quelques exemples de dosages qui pourraient, donner une idée
voilà,
là,
au
ça,
jardin.
Parce qu'on n'est pas en période de jardinage, mais juste donner une idée à nos amis jardiniers.
Voilà, au jardin, pour tomates, aubergines, poivrons, on peut se dire qu'on peut faire 3 arrosages d'un demi-litre à peu près. Hein, ça va nous, disons que là, ça va nous apporter, pour ceux qui sont un petit peu chimistes, 13 grammes d'azote par mètre carré.
Mmh.
Voilà. Pour les laitues, 2 arrosages comme ça vont suffire, ce qui va apporter 8 grammes d'azote. Pour les choux, 3 ou 4 arrosages d'un demi-litre aussi. Et ben, on est toujours dans cette proportion de 13 à 19 grammes d'azote par mètre carré.
Et puis, si vous avez des réticences à utiliser l'urine comme fertilisant dans votre potager, pour les légumes que vous allez consommer, ben, n'oubliez pas ce qu'est le fumier. Tout simplement.
Et ben voilà, exactement.
Et oui.
c'est bien ça qui est dans la paille. Hein.
Et dans la paille, c'est oui, effectivement.
Donc voilà, on a jamais goûté une tomate hein, qui avait le goût de bouse. Hein, où,
ben,
non. On le voit quand...
On est très habitué, on ne le sent plus peut-être.
Voilà. Non, mais quand vous faites des potirons, par exemple, sur le bord du compost, eh ben, vous allez avoir des très jolis potirons, mais ça n'aura jamais le goût de ce qu'on a mis dans le compost, hein, puisqu'en fait, on a fait un amendement, voilà,
c'est
un amendement, mais c'est en aucun cas une assimilation complète.
Directe, complète. Effectivement,
voilà.
La plante, elle va chercher ce qu'elle a besoin d'aller chercher, de l'azote principalement, et puis des oligo-éléments, du potassium, etc., etc. Voilà. Bon, par contre, il est quand même préférable, si vous amendez votre jardin à l'urine, il est préférable qu'un mois se déroule entre la dernière fertilisation et la récolte des légumes. Voilà. Et évidemment, vous arrosez au pied des plantes, vous n'arrosez pas sur les légumes.
Voilà. Ni sur les légumes, ni sur les feuilles, d'ailleurs. Hein.
Ni sur les feuilles. De toute façon, ça, ils n'aiment pas.
Hein. Voilà.
Ouais. On est d'accord. Bon, mais toutes ces petites infos, en fait, je les ai trouvées dans La Terre au Carré, là, de l'émission de Mathieu Bidard, là, de France Inter, qu'on aime bien avec Jackie, la seule émission scientifique que je comprenne. et puis aussi sur un petit site internet très sympa que j'ai découvert cette semaine aussi, qui s'appelle binettecornichon.com. Binettecornichon.com, où il y a plein de conseils de jardinage. Mais bon, nous, ici, on a Jackie, ça nous suffit, hein.
Voilà, je vais faire binette et cornichon.
Allez, fais-nous binette et cornichon, Jackie. Est-ce qu'on a fait le tour de la question ?
Ben, il me semble. Hein.
On va écouter un peu de musique. Moi, j'aime bien la musique.
Eh ben, on continue avec Brel.
On continue avec Brel. Cette fois-ci, c'est le choix de Jackie. Et c'est Jacques
oui.
Brel avec les Flamandes.
Voilà.
Les flas.
Les Flamandes dansent sans rien dire, sans rien dire au dimanche sans nom. Les Flamandes dansent sans rien dire, les Flamandes ça n'est pas causant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 20 ans, et qu'à 20 ans il faut se fiancer pour pouvoir se marier, et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents, le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent, et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes
flamandes, les flamandes, les flas, les flamandes. Les flamandes dansent sans frémir, au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans frémir, les flamandes, ça n'est pas frémissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans. Et qu'à 30 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants. Et le houblon et le blé dans le pré, elles font la fierté de leurs parents et du bedeau et de son imminence. L'archiprêtre qui prêche au couvent, et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes dansent sans sourire, au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans sourire, les flamandes, ce n'est pas souriant. Si elles dansent, c'est qu'elles ont 70 ans. Qu'à 70 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants. Et le houblon et le blé dans le pré, toutes vêtues de noir comme leurs parents, comme le bedeau et comme son imminence. L'archiprêtre qui radote au couvent, elles irritent et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes dansent sans mollir, au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans mollir, les flamandes, ce n'est pas mollissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont chantant, et qu'à chantant, il est bon de montrer que tout va bien, qu'on a toujours bon pied, les bons blancs, les bons blés dans le pré. Elles s'en vont retrouver leurs parents, et le bedeau, et même son imminence. L'archiprêtre qui radote au couvent, et c'est pour ça qu'une dernière fois elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les
les flas, les flas. Voilà, nous voici de retour pour Cultivons notre jardin avec Jackie. Et maintenant, nous allons passer à une question d'auditeur.
Et l'auditeur est une auditrice.
Une auditrice. Tu es prêt, Jackie ?
Ben oui, toujours.
Bon, il s'agit de Sophie. Sophie demande, qui nous demande, quand et comment faire des boutures de camélia ? Parce qu'elle aimerait beaucoup récupérer, bouturer le camélia de sa grand-mère. C'est important, elle n'y arrive pas, elle a fait plusieurs essais. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, Jackie, s'il te plaît ?
Oui, puis je vais la rassurer quelque part en disant que vraiment, ce n'est pas chose facile, les boutures de camélias.
D'accord.
Alors, bon, ça va permettre de parler non seulement des camélias, mais des boutures aussi en même temps.
Mm-hmm.
Donc, pour ce qui concerne ces boutures, deux choses sont à privilégier. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir ? C'est de la chaleur. Et surtout, un taux d'humidité constant.
D'accord.
Voilà. Alors, donc, normalement, il va falloir attendre, hein, parce que c'est l'été qui est la bonne période.
Ah, le plein été ?
L'été, pour avoir une température autour de 20-25 degrés, c'est là où ça va se passer le mieux. Pourquoi ? Parce que la sève en circulation, c'est elle qui va procéder à l'élaboration des racines. Donc, on va prendre quelques outils de taille, bien affûtés et désinfectés. Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Hein. On va créer une plaie. Et donc, la bouture, ça commence déjà par là, d'avoir un morceau de plante qui soit le plus simple possible. Alors, on prélève une bouture sur une plante, là aussi, bien saine. J'irai un petit peu plus loin que pour le camélia. Quand vous avez une plante qui est un peu malade, eh ben celle-là, on ne la bouture pas. Ça, c'est important aussi. Donc, la bouture, c'est quoi ? Ben, c'est l'extrémité d'un rameau de bois qu'on va prendre à peu près sur 20 cm de long. Alors, c'est ce qu'on appelle un rameau bien outé, c'est-à-dire qu'au mois d'août, la partie qui venait de pousser, qui était verte, devient du bois. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, là, c'est outé. L'écorce, d'ailleurs, elle est passée de vert à marron comme couleur.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, on coupe l'extrémité haute de la bouture, hein, c'est-à-dire le bourgeon terminal, ce qu'on appelle le bourgeon apical, qui lui voudrait prendre toute la sève. Donc là, on coupe sur 3 cm à peu près la partie plus haute.
T'as coupé un rameau, là, j'essaie de te
20
suivre.
20 cm.
20 cm, et là, au bout de ton rameau...
Voilà, les feuilles les plus jeunes, je coupe 3-4 cm de ce rameau, pour
D'accord.
supprimer justement le bourgeon terminal.
Ok.
Donc, ensuite, on va effeuiller la base, hein, depuis la base sur une dizaine de centimètres à peu près, on va retirer toutes les feuilles. On va sauf les cinq feuilles en haut.
Les dernières, les cinq dernières
feuilles. Les cinq dernières feuilles.
Attention, c'est cinq.
Voilà. Non, ça peut être quatre ou six. Hein. C'est une idée. Hein.
Okay.
Voilà. Alors, les feuilles elles-mêmes, on va les réduire de moitié.
Comment
C'est-à-dire qu'on coupe les feuilles en deux.
Dans la longueur ou...
Dans la longueur.
Ah bon,
puisqu'en fait, on va avoir le pétiole et une demi-feuille, quoi, si tu veux.
Okay. Ah oui.
Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Normalement, sur toutes les boutures feuillues, on doit faire ça. Mais parce qu'en fait, une plante comme ça qu'on va bouturer, il faut éviter au maximum qu'elle se dessèche. Et pour se dessécher, eh ben justement, c'est parce qu'elle va, par rapport à ses pores, elle va perdre de l'humidité. Donc, si on réduit les feuilles, eh ben, elle va perdre moins d'humidité. Et ça, c'est très important quand on fait
ça,
des
c'est
boutures
étrange.
De millepertuis, de je sais pas, de figuier ou autre. Quand on le fait avec les feuilles, les gens ne le savent pas obligatoirement, mais on coupe au moins la moitié des feuilles.
Oui, alors qu'on les enlève, je le comprends parce que ça évite de fatiguer le rameau pour rien, mais qu'on coupe la moitié des feuilles, ça j'avais jamais entendu.
Eh ben parce que les feuilles, ben regarde une.
Est-ce que ça la blesse ? Est-ce que ça la fatigue pas du coup la plante ?
Non, non, elle va très vite s'en remettre parce que là justement on a dit que c'était en été, au mois d'août,
oui.
Donc ça va très rapidement sécher.
C'est vrai.
Et puis alors pour expliquer ça, je te dirais ben une plante chez toi où tu vas te dire ah il faudrait l'arroser. Pourquoi il faudrait l'arroser? Parce qu'on voit que c'est...
Elle fait la gueule, elle retombe.
Voilà, ses feuilles retombent. Si ses feuilles retombent, c'est parce qu'il n'y a plus assez de sève à l'intérieur, parce que justement, elle s'est déshydratée. D'accord? Et donc, on va éviter qu'elle se déshydrate.
D'accord.
Alors donc, je reviens un petit peu. Donc, on a réduit de moitié les feuilles. Justement pour éviter cette déshydratation.
Mm-hmm.
On enlève alors un tout petit peu d'écorce à la base.
Avec un crayon.
Voilà. Pardon.
Avec un taille-crayon.
Non, on écorce avec un petit ou avec le sécateur si on n'a pas, ou un petit greffoir, ou en tout cas un couteau très très bien affûté. On va en fait faire une petite plaie. Hein. C'est juste sur un côté.
Ah.
On va comme si on allait tailler un crayon,
entaille,
mais juste
voilà.
On entaille comme ça. On fait sauter un petit bout d'écorce.
D'accord.
Pourquoi? Pour faire une plaie, parce que c'est autour de cette plaie que vont pouvoir se développer les racines.
Mm-hmm.
D'accord. Alors donc ensuite. Je vais on fait ça sur 2 cm de haut à peu près. Et puis là, je vais pouvoir disposer des hormones. Hein, des hormones, c'est une poudre blanche sur ma bouture comme ça, avant de la mettre dans un mélange. Alors, oui, tu as quelque chose contre les hormones?
Les hormones de bouturage,
voilà.
J'ai un petit doute, Jackie.
Alors, on a une autre méthode.
Hein. Tu vas me rassurer.
Je vais y venir.
Très
oui,
bien.
Oui, voilà, parce que... Bon, mais... En même temps, les hormones de bouturage, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Ça marche très bien. Donc, j'enfonce dans un mélange composé par moitié de terre de bruyère et de sable. Hein, parce que c'est il faut savoir que le camélia, c'est un végétal qui n'aime pas les terrains calcaires. Donc, mm-hmm. On va avoir une terre de bruyère qui est acide et du sable. Le mieux, c'est de faire plusieurs boutures. Alors,
oui.
On le fait dans une mini-serre. Ou à défaut, dans un pot que l'on recouvrira d'un sac en cellophane
pour bien conserver l'humidité.
Comme je disais tout à l'heure, il faut
ouais.
absolument bien conserver cette humidité. Ce dispositif devra être après entreposé à l'ombre.
Okay. On peut le mettre à l'intérieur ?
On peut le mettre à l'intérieur, tout à fait. Donc dans un endroit lumineux,
mm-hmm.
mais pas au soleil,
voilà.
Ça veut dire pas au soleil direct.
Oui.
Hein ? On est bien d'accord là-dessus ?
Oui.
Voilà. Donc, ensuite, on va attendre plusieurs mois. C'est très long.
Ah
hein.
Plusieurs mois ?
Oui. Et en maintenant, toujours un taux d'humidité constant, comme ça. Il ne faut absolument pas que ça se dessèche. Quand on constate que les bourgeons qui étaient à la base des feuilles, d'accord, à la base de nos
oui.
feuilles, justement, on a coupé et pas arraché les feuilles. Et à la base, on avait obligatoirement, à la base d'une feuille, il y a toujours un petit bourgeon qu'on appelle latent. Et bien, ce bourgeon, au bout d'un moment, il va commencer à se développer. Et alors là, c'est là où on verra que notre bouture a repris.
Mm-hmm.
D'accord ? Et on pourra ensuite la rempoter
ça va pas, on
le
va pas
printemps
avoir
suivant.
Voilà, on ne va pas avoir de petites racines. On va juste se contenter d'observer notre petit bâtonnet, là.
Voilà.
Et voir si les bourgeons se
voilà.
font.
Voilà.
Hein, okay.
si les bourgeons se font comme ça, c'est déjà que les racines se sont faites.
D'accord.
C'est la conséquence. Hein.
Ok.
Alors, un petit truc au passage, et puis qui va te ravir, qui était très utilisé par nos anciens, c'est qu'à défaut d'hormones de bouturage, vous pouvez disposer des petits grains de blé dans votre mélange, là, hein, on avait dit terre de bruyère et sable, parce que ces grains de blé, en fait, en germant, ils vont justement libérer les mêmes hormones hein, que les hormones de bouturage.
Et ça va être naturel, merci
voilà.
Jackie.
Et ça va être naturel.
Oui.
Alors, de même, si vous faites des boutures dans de l'eau, à la maison, hein, souvent on fait des boutures ou de misère, ou de patience, ou de choses comme ça, et ben, gardez votre eau, parce que si justement ça s'est bien enraciné, il y a toujours eu un développement d'hormones, et donc vous pouvez aussi des fois arroser justement avec cette eau à l'encontien, ou alors le garder dans un coin à côté de l'évier. Moi j'ai toujours un verre comme ça, où je sais qu'il y a de l'eau et des hormones, et à chaque fois je remets toujours mes boutures dans ce même verre d'eau.
Tant que tu ne le bois pas.
Voilà.
Tout va bien. Et pourquoi on n'utiliserait pas de l'urine pour notre bouture de camélia, non, tu veux pas?
Ah non, je veux pas. Ah non, je veux pas du tout parce que ça va brûler. Hein, ah, ça va aller à l'encontre justement des hormones. Et donc ça pourra servir une fois que ma plante aura été rempotée, qu'elle commencera à bien pousser. Alors après, effectivement, je pourrais. Mais attention, ce qui est joli dans le camélia, c'est les fleurs.
Oui.
Si je pousse trop avec de l'azote, donc avec ton engrais à base d'urine, eh bien je vais avoir beaucoup de feuilles, mais beaucoup moins de fleurs.
Ah, dommage, oui.
Donc voilà, il faut aussi penser à ça.
Et hein. Oui.
Les engrais sont à base de trois éléments, l'azote, la potasse et le phosphore. Et donc, ben justement, la potasse ou le phosphore va au contraire favoriser la venue des fleurs et des fruits.
Oh, super. Voilà. Merci, Jackie. Bon, c'est bien que tu nous... Bon, ben on va espérer que notre auditrice Sophie va réussir ses prochaines boutures de camélia l'été prochain. Hein, donc, il va falloir attendre l'été, Sophie.
Oui.
Voir le mois d'août, hein, c'est le mieux.
Et pas que Sophie, hein, les autres auditeurs ont le droit aussi de...
Tu crois
ouais, de on profiter les autorise, de la recette.
Mais c'était que la question de Sophie, ça, quand même.
Voilà.
Comment on fait maintenant?
Eh ben, les autres auditeurs, si ça marche, ils pourront nous écrire aussi. Ou nous demander d'autres conseils, comme
oui,
ça.
Oui, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions et puis à nous faire vos retours. Si vous testez des choses, par exemple, tiens, si vous testez l'urine en tant qu'engrais ou si vous faites des boutures particulières, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. C'est toujours intéressant de le partager, du coup, avec les autres auditeurs.
Voilà, c'est le principe même du jardinage. Hein. On échange nos bons conseils et nos expériences.
Jardinage et partage, ça rime.
Ça doit être pour ça.
Mais sûrement. Bon, mais voilà, la question du camélia étant vue, nous pouvons passer peut-être à l'agenda des activités. Qu'en pensez-vous, cher Jackie?
Eh bien, on va commencer tout de suite
yeah.
avec le foyer rural Tarnon-Mimante qui organise la deuxième fête des vergers. Ça va se passer à Vébron le 27 octobre. C'est toute la journée. Alors là, nombreux ateliers, conférences, projections de films, expositions de fruits, détermination aussi de fruits. Si vous avez un pommier à la maison et que vous voudriez savoir quelle variété,
ben oui.
vous mettez 5-6 fruits dans un sac en papier et puis vous l'amenez. Il y aura une personne qui pourra, une pomologue qui pourra essayer de déterminer la variété de vos fruits. Il y aura aussi donc du troc, hein, des
oui.
troc plantes, troc matériel aussi de jardin. Des stands associatifs seront là. Donc il y aura entre autres Jardin Nature 48, Verger de Lozère. Enfin voilà, pour une belle journée le 27 octobre à Vébron.
Mais il y a quelques jours, on me demandait quelles étaient les prochaines troc plantes prévues, etc. Donc c'est vrai que là, j'ai dit ça va être compliqué parce qu'on rentre dans la période d'hiver. Il reste effectivement cette journée de la fête des vergers à Vébron, le 27 octobre. Donc si vous, voilà, profitez-en parce qu'après, dans l'hiver, c'est vrai qu'on va en trouver moins.
Et oui, après ça redémarrera au printemps.
Voilà.
Mais voilà, il y a des plantes et des graines. Hein. Donc
oui.
c'est sympa aussi, on récolte ces graines, on les ramène et ça fonctionne.
Vous avez le temps de faire sécher d'ici le 27 octobre. Bon courage. Bon, moi, je voulais vous annoncer, en fait, vous annoncer rapidement, puisque en fait, l'atelier est déjà complet, mais l'initiative était intéressante. C'est le jeudi 31 octobre, 14h, 16h30. C'est la ressourcerie La Récup qui propose des ateliers rempaillage de chaises en tissu. C'est un cycle de 3 ateliers. Et ça, c'est déjà le 3e atelier. Et à chaque fois, ils ont été complets. Voilà, c'est pour signaler que quand même, il y a des choses qui se font et qui fonctionnent bien. Donc ça, c'est chouette. Merci à la ressourcerie de proposer autant de choses.
Et d'ailleurs, il propose aussi le samedi 9 novembre,
oui,
de 14h30 à 17h30, un atelier réparticipe.
Ah, ça, c'est chouette.
Alors, un atelier participatif de réparation de petits électroménagers, matériel IFI, etc. Et alors, ça se déroulera dans un tiers-lieu solidaire qui est l'Antirouille au Foirail Amande.
Voilà, donc là l'idée c'est que vous venez avec votre petite grille-pain, votre cafetière, votre truc électrique qui est en panne et vous voyez avec les gens qui sont là ben, comment arriver à le réparer et c'est chouette ça aussi, c'est sympa, et c'est de l'échange d'infos, c'est de la convivialité et c'est du déchet en moins.
Voilà. Alors, allez-y.
Qu'est-ce que je voulais raconter ? Moi, si le 13 novembre aussi, on a une autre manifestation, enfin, c'est une conférence sur le travail du sol du jardin en automne. C'est Jardin Nature 48, Jackie, tes amis de Jardin Nature 48 qui organisent cette conférence. Ce sera le mardi 13 novembre à 20h30 à Mende. Et donc, c'est une conférence sur le travail du sol du jardin à l'automne. C'est le moment.
Voilà, ça doit être à Mende, salle des associations, sûrement. Hein,
sûrement quelque chose comme ça. Tu ne nous l'as pas dit, mais...
Voilà.
On voit, oui, ça va être ça sûrement.
Et c'est encore Jardin Nature 48 qui organise un atelier de taille d'automne. Alors ça, ce sera le samedi 16 novembre à 14h30 à Vébron. Donc,
ça, c'est
venez
important
avec vos sécateurs,
ouais,
pour apprendre à tailler. Je crois que ce sont des tailles de restructuration, donc sur des arbres qui ont déjà un petit peu d'âge.
Oui, c'est le moment de vous occuper de vos vieux arbres.
Voilà.
Très bien.
Ben on peut rappeler aussi maintenant ce qu'on a, on en a beaucoup disserté dans l'émission, mais que voilà, le 23 et 24 novembre à Saint-Jean-du-Gard, il y aura la fête de l'arbre. Et donc, venez-y nombreux, vous passerez vraiment un bon moment et vous pourrez retrouver les stands de Verger de Lozère, entre autres.
Et puis, prévoyez la journée. Au moins,
ah,
parce
oui,
qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, à voir, à discuter, à goûter. Enfin bon, voilà quoi.
Voilà, un bon moment à passer. On a la chance d'être auprès et des fois, quand on a des choses qui se passent pas si loin que ça de chez nous, on n'imagine pas à quel point les autres personnes en France peuvent nous envier.
Exactement.
La musique maintenant.
Ben oui, ouais, en fait, on a fini là, Jackie. On a fini l'agenda des activités. Et comme on est sur notre série de Brel pour cette émission d'aujourd'hui, on va finir en beauté, chauffe Marcel avec Vesoul. Voilà. T'es d'accord ?
Eh ben, on va dans le Nord, hein, puisque Vesoul, c'est dans le Nord.
Et qu'est-ce qu'on dit ?
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flanflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du Dutron et on a vu du Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutron, on a quitté Dutron.
Maintenant je confonds ta sœur et le mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard.
Mais je te le redis, chauffe la selle, chauffe, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flanflons, de la valse musette et de l'accordéon.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vesoul. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours, chauffez les gars. Et je te le redis, hey, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les plans-plans, de la valse musette et de l'accordéon.